Un SMIC à 2000 euros net, l'emploi garanti pour tous, le partage du travail, la retraite à 60 ans, les recettes de Nathalie Arthaud pour un monde meilleur et un meilleur pouvoir d'achat. Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec Frédéric Delpech, on va vous poser des questions sur votre programme, sur votre campagne. Votre candidature, pourquoi faire ?
Alors, ce ne sont pas des recettes que je propose, très clairement. Ce ne sont pas des recettes. Et moi, voilà, je ne déploie pas un catalogue de promesses électorales, très clairement. Je dis que, oui, il faut se battre sur les salaires. Oui, il faut porter le SMIC à 2000 euros parce qu'à moins, eh bien, on a du mal à vivre. La réalité, c'est qu'on doit compter chaque euro et qu'on galère. On galère parce qu'il faut faire des choix, des sacrifices, d'ailleurs de plus en plus grands maintenant avec la flambée des prix. Donc, je pense aussi qu'il faut éradiquer le chômage, la précarité de masse. Mais ça sera un combat. Un combat collectif pour obtenir cela. Et bah oui, il va falloir renouer avec les grèves, avec les mobilisations. Il va falloir aller prendre sur les profits, il va falloir prendre sur les grandes fortunes, contester ces dividendes aujourd'hui qui sont accaparés par une minorité. Donc clairement, moi, ce qui me distingue de tous les autres candidats, c'est que j'en appelle aux travailleurs eux-mêmes, à leur capacité de se rassembler, de s'organiser et de se défendre. Et je leur dis, là, aujourd'hui, à 3 jours de l'élection, surtout, ne pas croire dans les promesses des uns ou des autres. Voilà, la réalité, c'est que le monde du travail a toujours avancé, fait avancer ses droits et ses intérêts en se battant. C'était comme ça dans le passé, ça sera comme ça demain.
Le SMIC à 2000 euros net, comment financer une telle mesure? Et qu'est-ce que vous direz aux petits patrons, aux TPE, aux PME, qui n'auront pas les moyens de pouvoir accéder à cette demande?
Tous ceux qui doutent du réalisme de cette mesure, je les appelle à reprendre à leur compte la revendication de l'abolition du secret des affaires. C'est-à-dire reprendre à leur compte la revendication d'aller voir les comptabilités. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans les caisses des entreprises, et en particulier des grandes entreprises? Parce qu'on me renvoie toujours aux petites entreprises. Mais vous savez,
c'est
quand même
qui créent les emplois, les PME.
Je souligne une chose, c'est que les bas salaires, ce ne sont pas les petites entreprises. Vous trouvez des très bas salaires chez Carrefour, chez Michelin, dans l'industrie automobile, avec tous les sous-traitants. Vous trouvez des très bas salaires dans la fonction publique. Ce n'est pas la petite entreprise. Vous êtes facteur. Vous êtes à 1400 euros, 1500 euros net. Vous travaillez en 3-8 chez Michelin. Vous êtes à 1500 euros net. Donc, vous voyez, les bas salaires, ce n'est pas réservé aux petites entreprises en difficulté. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, je peux vous citer, moi, un certain nombre de petites entreprises qui payent leurs salariés à plus de 2000 euros, parce que c'est des salariés qui sont qualifiés, parce que voilà, ils les payent comme il se doit. Donc voilà, moi j'en appelle encore une fois à ce contrôle-là. Il ne faut pas qu'on marche dans ce mensonge qui consiste à nous dire qu'il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais d'argent pour les travailleurs en réalité, mais c'est quand même quelque chose
de
dingue.
Mais la France, ce n'est pas que les grandes entreprises.
Ce n'est pas
il y a peut-être un effort à faire pour les grands groupes, mais les PME, elles ne sont pas toujours en train de mentir et de cacher la vérité sur leur compte. 2000 euros net,
ce ne sont pas
c'est beaucoup.
Vous savez, ce ne sont même pas les petites entreprises. Ça, c'est sûr qu'elles ne mentent pas. Tous leurs comptes, elles sont faciles à vérifier, sont faciles à connaître au jour le jour. Les salariés voient les dépenses, voient ce qui rentre, etc. Non, mais par contre, il faut lever le voile, en effet, sur les grandes entreprises, sur les grandes, parce que justement, on verrait aussi cette transparence, vous savez, ça serait très utile aussi, précisément pour les sous-traitants, précisément pour les PME, pour les petites entreprises, parce que cela montrerait comment les gros se gavent sur les petits, cela montrerait comment, avec leurs contrats de sous-traitance, les plus gros étranglent précisément les entreprises intermédiaires. Donc ça serait une mesure de transparence qui servirait aussi à beaucoup de petites entreprises. Mais encore une fois, moi, on ne doit pas marcher dans l'idée qu'il n'y a pas d'argent dans cette société. Écoutez, quand on voit les profits exploser à un pôle, quand on voit les grandes fortunes, moi je dis oui, à 2000 euros net, on a du mal à vivre. On me dit, mais Madame Arthaud, c'est que c'est utopique. Mais écoutez, oui, je prends la première grande fortune du pays, Bernard Arnault. C'est 3,8 millions par jour. Ça fait 2 SMIC à la minute. 2 SMIC à la minute, c'est 2000 euros. Chaque minute qui passe, lui, il encaisse 2000 euros. Ah, c'est le réalisme. Ça, c'est le réalisme. Alors, voilà, moi, j'appelle effectivement les salariés à dire, ben voilà cette société. Dans cette société, le réalisme, c'est que les travailleurs, ils galèrent et que, à l'autre pôle, la grande bourgeoisie, nage dans les milliards. Eh bien, il faut arrêter ça. Donc, qu'on fasse la transparence. La transparence sur les comptabilités. En plus, franchement, on nous dit du matin au soir que c'est la démocratie.
Tous les groupes qui sont cotés.
C'est la démocratie.
France,
la démocratie, ça serait ça aussi.
Les grands groupes, les comptes sont publics, on peut aller les consulter. Non. Il y a des associations d'actionnaires, de petits actionnaires d'ailleurs aussi souvent, Et ces groupes-là, ils sont, ces comptes-là, ils sont accessibles.
Non, c'est les, si. Les grands groupes...
Dites pas non, c'est vrai, c'est un fait.
C'est, non, c'est une partie des comptabilités. C'est une partie des comptabilités. Moi, ce que je revendique, c'est le contrôle par les travailleurs eux-mêmes, par les comptables eux-mêmes.
Mais les comptes sont accessibles.
C'est ce qu'ils veulent bien nous montrer qui est accessible. Et puis, tout un tas de choses qui sont cachées derrière des petites lignes, là, réserve par-ci, provision pour ça, etc. Je peux vous dire que les comptables, ils savent très bien ce qui se cache derrière les lignes. Et justement, si on donnait la possibilité aux comptables, à tous les salariés qui réalisent justement ces contrats, eh bien, ils pourraient dévoiler la vérité de tout cela. Exactement, vous savez, comme ce qui s'est passé dans l'usine Buitoni qui a été fermée, là, par le préfet. Je peux vous dire que si on demandait, si on avait donné la parole aux ouvriers, aux salariés qui avaient tiré la sonnette d'alarme sur le fait que non, l'entretien n'était pas fait comme il devait être, qu'il y avait des rats, qu'il y avait des moisissures sur les installations, eh ben on n'en serait pas là. La réalité, c'est qu'on n'en serait pas là. Alors on nous dit, oui, mais tout ça, il y a des contrôles, il y a des experts comptables, il y a ci, il y a ça. Et la réalité, c'est qu'ils nous cachent les choses. Ils nous cachent la vérité des choses, ils nous cachent leurs méfaits, en fait. Ils nous cachent leur crimes, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a vu aussi pour Orpea, vous voyez. Alors moi, ma revendication, elle est très simple. C'est de donner aux travailleurs, aux salariés, la possibilité de dire ce dont ils sont témoins au jour le jour, dans les ateliers, dans les bureaux, dans les services comptables, justement, de le dire.
C'est et là, on connaîtrait toute la vérité. Frédéric Delpech.
Pour revenir sur cette proposition donc de lever du secret des affaires, du secret bancaire, du secret industriel, vous qui êtes professeur d'économie, comment pratiquement, vous le mettez en place. Est-ce que vous passez par un texte de loi coercitif, en sachant que d'ailleurs beaucoup de banques ont leur siège à l'étranger, par exemple. Comment vous faites pour les banques qui se trouvent à l'étranger pour lever le secret bancaire ?
Oui, oui, un texte de loi coercitif, comme vous dites, coercitif avec des contraintes. Un truc incroyable, hein, un truc incroyable quand on parle du grand patronat, un truc incroyable quand on parle de ces multinationales, justement. Mais sur nous, les contraintes, elles pèsent tous les jours, hein. Vous savez, il y a effectivement des radars, dès que vous êtes à 52 km/h, clac, la contrainte, elle s'abat, la sanction, la contravention, elle est là. Les contraintes, pour nous, dans notre vie de tous les jours, ça existe, hein, pour les petites gens. Moi, je suis pour, en effet, imposer des contraintes de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, on n'en serait pas là. Pas là où nous en sommes. On ne serait pas confronté à des spéculateurs qui aujourd'hui font flamber le prix de l'essence parce que justement ils profitent de ces tensions internationales, de la guerre en Ukraine, etc. On n'en serait pas avec des cours du blé qui flambent et qui risquent d'affamer des centaines de millions de familles d'hommes.
On a parlé du SMIC à 2000 euros net. Quelles sont les autres mesures que vous proposez aux Français pour améliorer leur pouvoir d'achat?
Je pense qu'il faut des augmentations générales de salaire, de pension de retraite et d'allocation. Voilà, je pense que quand on se réunit dans les entreprises et qu'on fait nos comptes, pour ne pas s'appauvrir, il faudrait des augmentations générales de 300, 400, de 500 euros, en fait. Et il faut que ces salaires soient indexés sur l'inflation, c'est-à-dire qu'ils augmentent au même rythme que les prix.
Mais c'est déjà le cas, ça, non ?
Que l'inflation réelle, pardon ?
C'est pas déjà le cas ?
Eh bien non, c'est pas le cas. C'est le cas pour le SMIC, et encore, toujours avec retard.
Chaque entreprise fixe l'indexation des salaires aussi.
Mais pas du tout. Il n'y a rien d'automatique. Aujourd'hui, vous savez,
Donc ça, ce serait inscrit
dans la
loi.
L'inflation, elle est évaluée à 4%. Et encore, sous-évaluée, parce qu'en fait, il y a une spirale inflationniste, là, c'est un emballement de tous les prix. Mais dans quelle entreprise il y a eu 4% d'augmentation du salaire de base ? Je ne sais pas, peut-être dans la vôtre, mais...
Je pense qu'on sait, en tout cas.
Non, et bien voilà, vous le dites vous-même. Non, il n'y a pas d'indexation. Et précisément, en fait, les salariés s'appauvrissent, mais exactement comme les retraités. Mais aujourd'hui, on est dans une situation indigne. Vous avez des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui n'arrivent pas à se chauffer, qui doivent sauter parfois un repas. Mais on est où, là ? On est où ? Donc, non, il n'y a pas cette indexation. Mais là encore, c'est un combat. Il va falloir l'arracher, cette indexation. C'est un objectif de lutte. Moi, vous savez, vous faites des reportages tous les jours en expliquant comment une petite entreprise ou un agriculteur... j'ai vu un reportage, un producteur d'œufs, hein, expliquer que, ben oui, ses charges avaient augmenté et que sans doute la personne allait répercuter ça sur ses prix. Les salariés, les retraités n'ont pas cette capacité-là, vous voyez, de répercuter leurs charges, l'augmentation de leurs charges sur leur salaire. Donc il faut l'indexation. Voilà.
Est-ce qu'il faut bloquer les prix
des revendications ?
Est-ce qu'il faut bloquer les prix de l'énergie ?
Moi, je pense que il faudrait surtout bloquer les spéculateurs. Voilà. Il faudrait bloquer les spéculateurs. Il faudrait justement.
C'est la réponse à tout.
Mais bien, bah écoutez, il y en a aujourd'hui qui font flamber le cours du pétrole. Le pétrole continue de couler, en fait. Hein. Il continue d'être approvisionné. Le gaz, le gazoduc entre la Russie et l'Europe n'a pas été coupé. D'où comment s'explique cette augmentation-là? Voilà, fulgurante. Pourquoi? Ce sont des spéculateurs. À un moment donné, on peut dire, bah, finalement, voilà, ils nuisent à l'intérêt collectif. Voilà, quand vous avez des fauteurs de troubles, quand vous avez des femmes et d'hommes qui, des hommes qui finalement sont des dangers pour les autres, bah, on les empêche de nuire, non? Enfin, je sais pas, y compris, on appelle ça les prisons. Hein, on essaye de les mettre à l'écart de la société. Et là, voilà, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Alors qu'ils ont, vraiment, effectivement, mais ils ont un pouvoir énorme sur la vie
L'une des mesures que vous proposez.
De tout un chacun.
Pardon de vous couper, mais on a besoin d'avancer sur les mesures que vous proposez, évidemment. C'est la suppression de la TVA, ce qui représente environ un tiers des recettes de l'État. Ça, vous faites comment après pour financer les services de l'État ? L'éducation, la santé, les retraites, tout ce dont les Français ont besoin aujourd'hui pour vivre.
Eh bien, en effet, je dénonce la TVA. Parce que c'est une taxe indirecte qui pèse d'abord et avant tout sur les pauvres. Hein. Parce que vous savez, quand on est SDF, en précarité, quand on est au RSA, on paye le même taux de TVA que Bernard Arnault, que les plus riches. Donc c'est l'impôt le plus injuste qui soit. Toutes ces taxes indirectes sont des impôts, mais injustes, et qui pèsent encore plus sur justement les classes populaires qui dépensent le moindre euro qu'ils peuvent toucher. Voyez.
Donc ces recettes-là,
moi je suis pour le supprimer. Eh bien, je suis pour aller prendre sur les grandes fortunes, d'accord. Figurez-vous. Voilà, mais oui.
On taxe davantage les plus riches.
Mais bien sûr, mais les taxer davantage, ah oui, ô combien, c'est à eux de payer. C'est à eux. Et quand
ça
j'entends...
suffira pour financer la suppression de la TVA, le salaire net à 2000 euros et tous les avantages que vous voulez donner aux travailleurs?
Ce ne sont pas des avantages que je veux donner aux travailleurs, je veux leur donner juste...
Les droits sociaux.
Mais la possibilité de vivre dignement, c'est possible dans cette société? Alors écoutez, tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible de porter le salaire minimum à 2000 euros ou d'avoir des augmentations qui permettent de vivre et de ne pas se dire est-ce que je me chauffe ou est-ce que je fais mon plein d'essence, eh bien, je pense qu'il devrait en conclure sur l'idée qu'il faut la changer, cette société, du tout au tout. Écoutez, une société qui ne permet pas à sa classe productive de vivre, mais c'est une société qu'il faut changer, qu'il faut renverser. Moi, j'en reviens toujours à l'idée qu'il faut justement faire la transparence sur l'argent qu'il y a véritablement dans cette société, l'argent qu'il y a dans les grandes fortunes. Faisons la transparence. Et là, on verrait.
Pour revenir à la question qui a été posée, donc faire la transparence, taxer davantage les hauts revenus, les hauts salaires. Concrètement, à combien vous évaluez ces recettes qui pourraient être justement supplémentaires pour pouvoir compenser la suppression de la TVA en termes de rapport financier, en quelque sorte?
Écoutez, je vais partir d'un chiffre que tout le monde connaît. Ce chiffre de 160 milliards de profits qui ont été annoncés par les 40 premières entreprises cotées à la Bourse de Paris, le CAC 40. C'est 160 milliards de profits. 160 milliards de profits, c'est l'équivalent de 4 millions d'emplois payer 2000 euros. 4 millions d'emplois payés 2000 euros. Alors vous voyez, il y a de quoi faire. Et moi, je suis convaincue que si on appelait le personnel dans les hôpitaux à se réunir et à faire la liste du personnel dont ils ont besoin pour faire bien le travail, pour les soulager sur leur charge de travail, pour réduire aussi leur temps de travail. Si on appelait le personnel de l'éducation, moi je me vois bien en assemblée générale avec mes collègues, on se réunit et on fait la liste de tout le personnel qui est nécessaire dans le lycée pour que ça fonctionne bien, pour que les élèves aient justement des interlocuteurs et puis qu'on réponde à vraiment à leurs besoins. Je peux vous dire qu'immédiatement, il y aurait des centaines de milliers d'emplois utiles et indispensables à créer dans cette société. Voilà comment moi je pense qu'on pourrait faire les choses, à condition, encore une fois, d'avoir entre les mains cette possibilité, oui, de contrôler l'argent qui existe. Mais, et là, on pourrait éradiquer le chômage. On pourrait éradiquer le chômage, on pourrait faire qu'il y ait zéro chômeur en réalité. Et on pourrait baisser les cadences, diminuer le temps de travail. Ça s'appelle la répartition du travail entre tous.
Je crois que le chiffre que vous mentionnez, c'est 137 milliards. Mais c'est...
Non, c'est 160 milliards,
mais
figurez-vous.
Cas, ça ne fait pas beaucoup de différence.
C'est 160...
Il est énorme, ce chiffre. Vous avez raison là-dessus.
Mais figurez-vous que ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore
Madame
une
Marteau,
entreprise qui n'a pas rendu ses profits. Donc ça va augmenter encore.
Qu'est-ce
donc
qui on motiverait est passé 137 une entreprise à 160 milliards. À fonctionner et ses salariés à travailler s'il n'y avait pas de profit à la clé et donc pas de perspective d'avancement, d'augmentation pour tous ceux qui travaillent évidemment au sein de ces entreprises et pour les patrons qui développent leur activité? Quelle serait la motivation?
Vous savez, beaucoup de salariés vont travailler avec la motivation de gagner leur salaire, ok, hein, mais surtout la motivation de ce qu'ils font d'utile pour la société. Et c'est ça qui conduit beaucoup d'aides à domicile de retourner au boulot, parce que vous savez, c'est pas la reconnaissance qui va
les aides à domicile qui arrêtent leur travail, ils disent tous la même chose, c'est trop dur, c'est trop mal payé. Souvent, on entend ça, les témoignages.
Et pourtant, vous voyez, ils continuent d'aller au travail.
Donc cette motivation, elle est importante.
Heureusement, il y a des millions de femmes et d'hommes qui vont au boulot, qui la font tourner cette société, parce qu'ils savent que c'est grâce à eux que tout ça fonctionne. Eh bien, moi, c'est dans cette classe sociale là que je mets ma confiance. Et je sais très bien que oui, la société, si elle était gérée, dirigée par le monde du travail, mais elle marcherait mieux. Vous savez, moi j'ai été frappée par le scandale McKinsey, hein, on nous dit qu'voilà, il fallait recourir à des experts. Mais pour moi, les experts dans cette société, ce sont les travailleuses et les travailleurs. Ce sont eux les experts, ce sont eux qui savent comment faire bien le travail, comment il devrait être organisé. Donc moi, je suis convaincue que si la société elle était dirigée par les travailleurs, eh bien, elle fonctionnerait mieux.
Nous sommes au 43e jour de la guerre en Ukraine. Vous, présidente, que feriez-vous pour arrêter cette offensive russe ?
Bon, moi, présidente, vous êtes d'accord que c'est assez artificiel, hein, de poser la question comme ça.
On se projette quand même.
Mais moi, j'imagine que s'il y avait un gouvernement des travailleurs, ils romprait déjà avec tous les actes, tous les traités, tous les accords, toutes les discussions et tractations des gouvernements précédents. Donc la première des choses qu'ils pourraient faire, c'est déjà mettre sur la place publique toute la diplomatie secrète, que tout ça, on ouvre et qu'on regarde pourquoi la France, elle a continué de livrer des armes à Poutine. Qu'est-ce qui a été discuté depuis 2014, alors que la guerre faisait rage dans le Donbass déjà? Qu'est-ce qui est discuté aujourd'hui entre la France et un certain nombre d'États africains qui ne sont pas des démocraties, qui sont des dictatures sanglantes et qui imposent leur talon de fer sur la population? Donc voilà, on mettrait en place cela, cette transparence, et puis surtout, on aurait à cœur de s'adresser non pas à Poutine, non pas dans tous ces dirigeants aujourd'hui des différents pays qui ont tous leur part de responsabilité dans cet engrenage qui a conduit à la guerre. Mais on s'adresserait au peuple et en particulier à la population
russe. C'est pour le long terme, mais dans l'immédiat, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que les Ukrainiens et des soldats russes aussi meurent depuis 43 jours.
Oui, alors écoutez, je vous remercie de me demander, moi, d'avoir une solution là, immédiate. Vous remarquerez que tous ceux qui prétendent gouverner, avoir le pouvoir et être les maîtres du monde, ils ont zéro solution. Hein. Moi, je les accuse d'ailleurs d'être co-responsables de la situation. Bon, Vladimir Poutine, là, mène une guerre monstrueuse et est capable de tout. Il a carrément même lâché ses chiens de guerre, on peut le dire comme ça. Quand on voit le massacre à Boutcha, quand on voit toutes ces tortures, enfin, c'est effarant, c'est effroyable. Mais encore une fois, tout ça, c'est le fruit aussi d'un ordre social, c'est le fruit de rivalités entre grandes puissances. Et il y a des responsabilités de la part de nos propres dirigeants. Et ça aussi, il faut leur demander des comptes, je pense, aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on commence par balayer devant notre porte. En tout cas, ça, nous, on peut le faire aujourd'hui.
Nathalie Arthaud, on est maintenant à très peu de temps du premier tour. Au soir du premier tour, quelle sera votre position? Par exemple, ce matin, la question a été posée à Anne Hidalgo qui disait « En tant que responsable de gauche, j'appellerai à faire barrage à l'extrême droite ». Est-ce que vous prendrez une position ferme au soir du premier tour, un appel, une consigne de vote que vous donnerez à vos électeurs pour l'entre-deux tours, en imaginant par exemple que ce soit Emmanuel Macron face à Marine Le Pen?
Bah écoutez, oui, voilà, il faut imaginer encore, hein, voyez, parce qu'il y a quand même 3 jours, le vote n'a pas lieu.
On prend les sondages et on imagine
voilà,
ça. Voilà.
Donc attendons quand même le premier tour. Mais dans tous les cas, moi, je ne peux pas croire qu'on puisse faire barrage aux idées d'extrême droite en s'appuyant sur Emmanuel Macron. Mais écoutez, toutes les 5 années que nous venons de passer, elles n'ont fait que conforter l'extrême droite. L'extrême droite, pas seulement Marine Le Pen, Zemmour, mais au-delà de ces deux politiciens professionnels qui en fait sont complètement, comment dire, dévoués à cet ordre social, qui roulent eux aussi pour le grand patronat, ça je tiens à le dire à tous ceux qui seraient tentés justement d'utiliser le vote Le Pen pour rejeter Macron, je tiens à leur dire qu'ils se trompent. Il se trompe littéralement, parce qu'en réalité, Le Pen au pouvoir, elle ferait ce que fait Macron, une politique anti-ouvrière, elle déroulerait le tapis rouge à toutes ces grandes entreprises. Elle n'a jamais eu
et
un mot contre l'exploitation, contre
les grands profits. Dans l'hypothèse d'un second tour,
je termine là-dessus. Donc moi, clairement, je combats Le Pen, je combats Zemmour, etc. Mais je sais que c'est pas avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il les a fait fructifier. Il leur a donné du grain à moudre au final, c'est ça. Donc je ne pense pas que ça puisse être
et Mélenchon Macron.
Qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Donc encore une fois, moi je pense que le combat.
Juste, Mélenchon Macron.
Non mais le problème c'est que vous résumez tout à.
À ce qui pourrait se passer au second tour.
Vous résumez tout à l'élection. Sauf que le racisme, les idées qui divisent le monde du travail vont exister quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle. Elles vont exister et elles affaiblissent d'ores et déjà le monde du travail. Donc moi, mon problème, c'est comment faire reculer ces idées-là dans le monde du travail. Et je pense qu'on peut faire reculer ça si le monde du travail reprend conscience de ses valeurs, de sa politique, de se constituer en camp pour demander des comptes
Nathalie.
À ceux qui les exploitent.
Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce matin.